Très clair. C'est dans les prophètes. Et Adam, en tzadik ba'aretz asheria, aseto velo yecheta. L'homme se définit ainsi. Il n'y a pas de juste sur terre qui fasse le bien et ne faute pas. C'est clair. Et je vous ai dit une fois, à la manière du Maharal citant le Talmud, c'est interdit d'être parfait. Parce que celui qui est parfait, soi-disant, sur terre, c'est qu'il est fou. Il est parfaitement fou. Ça va. Celui qui se prend pour imparfait, imaginez. Complètement fait en latin. Perfecto. Alors, attends une minute. Qu'est-ce que je disais avant? Comment ça s'appelle? Ruth. Hein? Ruth. Qu'est-ce que je disais juste avant? Avant de parler des fruits. Hein? Oui, retenez bien ce verset. Je reviens sur le verset. Rappelez-moi, je vous donne la référence du verset. C'est un verset important. En tzadik ba'aretz asher ya'aseto velo yecheta. Il n'y a pas de juste sur terre qui fasse le bien et ne faute pas. Mais la définition du juste, c'est celui qui fait le bien et ne faute pas. Le verset contradictoire. Okay? Alors voilà comment nos maîtres ont expliqué. Qui, en faisant le bien, ne faute pas. Qui fasse le bien et ne faute pas en faisant le bien. Bien sûr, il est tzadik, il veut faire le bien. Mais le bien qu'il fait, ça peut entraîner un mal vis-à-vis de X critères autres, X valeurs autres. En faisant le bien à quelqu'un, vous risquez de faire du mal à quelqu'un d'autre. Vous suivez? Bon, c'est ça la réalité du monde, et on verra pourquoi. Et il y avait un vers de Victor Hugo, je crois, qui disait quelque chose comme ça, que la vie est une roue qui ne peut marcher sans écraser quelqu'un. Vous voyez à peu près l'idée? Ça veut dire, il peut arriver, et ça arrive souvent, que visant une valeur du bien à un certain niveau, on viole une valeur du bien plus bas ou plus haut. C'est clair? Alors c'est la raison pour laquelle on a besoin du rite de l'expiation, vous vous rappelez? Vous vous rappelez de cela? Qui est la soupape de revirginisation de la conscience, parce que la conscience est encombrée de ces hataïm, de ces erreurs de tir, qu'on ne peut pas éviter. C'est clair jusque-là? D'ailleurs, la tradition chrétienne l'a bien vu, puisque un des rites principaux, surtout chez les catholiques, c'est la confession. Okay. Je sais qu'en milieu juif, on fait semblant de dire « nous, on n'a pas la confession ». C'est faux. Les chrétiens ont pris la confession du rite juif. Okay. Et j'ai un de mes amis qui est spécialiste de ces choses me disait « depuis que les catholiques ne vont plus à confesse, comme ils disent, ils vont chez le psychiatre. Allez, il vaut mieux aller chez le confesseur, c'est moins cher. » C'est clair. Il y a des statistiques en Amérique qui montrent la fréquentation des psychiatres, les juifs le moins, bon, parce que la relation à la loi est d'une autre nature, les protestants un peu plus que les juifs, et l'immense majorité des clients, c'est des catholiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont plus se confesser, alors ils ont besoin du psychiatre. Vous comprenez? Hein? Chez les juifs, c'est moins, parce que le rituel fonctionne de cette manière. C'est-à-dire là. La dimension de l'expiation est présente dans le rituel. Elle se fait. Pour un juif pieux, il n'a pas besoin du psychiatre. Alors, un juif pieux qui a besoin du psychiatre, c'est quoi? Vous comprenez, Mathilde? C'est qu'il n'est pas si pieux que ça. Bon, ne généralisez pas, n'allez pas identifier la voisine. Qu'est-ce que tu disais de psychiatre juif? Non, en général, il faut, quand on a un problème, il faut aller chez un psychiatre qui est censé être au courant du problème. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair. Par exemple, si vous avez une fracture, vous n'allez pas voir le dentiste. Qu'est-ce que vous dites? Sauf si c'est une fracture là. Qu'est-ce que vous dites?
Donc, on parle de la contradiction qui avait à être. S'il pouvait y avoir des tzadikim chez les noirs, on n'a pas
J'ai pas dit chez les noirs.
Ou chez les.
Oui, non, on n'a pas résolu. Pour le moment, on est sur la question. Vous y êtes? Je répète encore la question pour que vous compreniez comment elle se pose. Si être tzaddik, c'est en relation à la loi, celui qui n'a pas accès à la loi n'a pas de chance d'être tzaddik. Entre-temps, je vous ai ouvert une parenthèse. Effectivement, concrètement, on voit cela. Au point de départ, toute conscience bien normalement constituée voudrait être tzaddik, c'est clair? Surtout dans la jeunesse. Okay? Et puis, on arrive un jour, on ouvre les yeux, mais on ne sait pas comment. Ce qui manque, c'est la connaissance de la distinction entre le bien et le mal. Vous voyez que ce fruit de la connaissance du bien et du mal, c'était important. Okay? C'est clair?
Vous avez dit tout à l'heure que même des
J'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas dit ça comme ça. Je vais te dire ce que j'ai dit. J'ai répondu à Ruth, si je me souviens bien. Et ça concernait une autre question. Je vous ai ouvert une parenthèse en vous citant un verset qui consiste à dire que même le tzaddik, en voulant faire le bien, peut entraîner quelque chose qui est mal. Mais, et alors ici, on a une notion très importante. Vous avez deux clauses. La clause de la bonne volonté. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire la bonne volonté ? Je préfère faire le bien que le mal, comme je les connais. Et ça, c'est un tzaddik, et cette définition résout notre problème. C'est indépendant de la table des valeurs à laquelle je me réfère, parce que c'est celle-là que j'ai entre les mains. C'est-à-dire, premièrement, le tzaddik à l'échelle universelle est jugé au niveau de la bonne volonté. Et de la bonne volonté reliée à une loi. Laquelle ? La sienne, un point. Ça, c'est le tzaddik à l'échelle universelle.
Vous voulez dire que je connais le mal ?
Hein ?
Vous voulez dire que je connais le mal ?
Attends, répète ta question, j'ai pas entendu. Minute, suivez.
Vous voulez dire que le tzaddik connaît ce qui peut être mal ?
Non. Attends, ça c'est une autre question, je reviendrai tout à l'heure, rappelle-la toi. Voilà ce que je veux dire. L'homme, en général, a une table des valeurs, comme il la connaît. L'habitude, l'éducation, le milieu où il est. Vous vous rappelez l'histoire des Pyrénées, en deçà, au-delà. Qui c'est qui a parlé de ça ? Pascal, Montaigne, je ne sais plus.
Montaigne.
Vérité en deçà, erreur au-delà. Ça n'a qu'une importance à ce niveau-là. La loi, comme il la connaît. Je vais expliquer juste ça, que ce soit clair, et après tu poseras ta question. C'est-à-dire, nous avons affaire à une conscience. Il a, lui, une catégorie du bien, une catégorie du mal. Peu importe d'où ça lui vient. Innée, acquise, comment, peu importe. Comme il connaît, lui, le bien, il veut faire le bien plutôt que le mal. C'est-à-dire, comme il connaît, lui, le mal, et il veut faire plutôt le mal que le bien. Ça, c'est la première définition universelle. Et elle vaut tant pour les juifs que pour les goyim. C'est clair ? C'est bien clair. Ça veut dire, le fait d'être lié à telle ou telle table de valeurs, qui ne soit relative, qui ne soit pas la morale absolue, la Torah, disons, à la limite, qui est promise à la descendance d'Abraham, n'enlève en rien le fait que n'importe quelle conscience morale peut être catégorisée, tzadik ou rachar, par son propre tribunal, par sa propre décision. C'est clair ? Et c'est au niveau de la bonne volonté. Ça va jusque-là ?
Mais si on fait du bien et des fautes.
Pardon ?
On est où ?
J'ai pas entendu.
Si. Si on fait du bien
et des fautes.
Bon. On est capable de.
Eh bien, dans. Minute. Dans la mesure où il fait le bien, tzadik, les fautes, rachar, on fait une balance. Alors finalement, il est bénoni jusqu'au moment où ça bascule là ou là. C'est pourquoi. C'est clair, c'est très simple. On ne compte pas les actes, on les pèse. Vous voyez, l'image de la balance de la justice, ça vient de très loin. Et le mois de Tishri, dans quel mois ? Dans quel signe du zodiaque ?
La balance.
La balance, Rosh Hashanah. Vous voyez le jugement ? Et alors, je referme la parenthèse. Ce n'est pas une coïncidence. Et alors, c'est pourquoi la Gemara dit « Repends-toi un jour avant ta mort. Pourquoi » Pourquoi ? Parce que le dernier acte peut être l'acte qui décide que tzadik ou rachar. Et comme on ne connaît pas le jour de la mort, il faut se repentir tous les jours. C'est ça. C'est clair.
Mais je ne sens pas cette connaissance.
Bon, ça c'est un autre problème. C'est-à-dire, on est d'abord jugé par au niveau de la bonne volonté. C'est-à-dire, celui qui nous juge, ce n'est pas une machine ordinateur. Hein, c'est un juge de vérité. On est jugé toutes circonstances connues. Et sur quoi on est jugé ? Premièrement, sur la bonne volonté. Ce n'est pas plus compliqué. Il va te dire, bon, voilà ma loi. On te jugera d'après ta loi. C'est-à-dire d'après ta relation à ta loi. Le tzaddik est celui qui a préféré son bien à son mal. Le rachav est celui qui a préféré son mal à son bien. Donc n'importe quel homme peut être tzaddik ou rachav. Ça y est jusque-là ? C'est-à-dire le problème a éclaté. Il n'y a plus de problème. Ça va ? N'oubliez pas qu'il y avait un problème. Hein. Je veux dire une règle. Faites attention, j'y reviens. Vous avez deux questions là, je sais. Quand vous avez la réponse à une question, ne croyez pas que la question s'est évanouie. Vous avez la question et la réponse. C'est clair ? Parce que la question se pose de nouveau, ne serait-ce que pour l'enfant qui vient de naître pendant que je parle. Il a encore cette question. Ça va ? Alors ça, c'est un grave danger des pseudo-sages qui croient que parce qu'ils ont des réponses, il n'y a pas de question, il n'y a plus de question. D'ailleurs, la vraie définition du haram, ce n'est pas tellement celui qui vous donne des réponses, c'est celui qui vous donne des questions. Est-ce que c'est clair ? Bon, effacez ça, ça peut se dire autrement, mais enfin, c'est pas exactement ça que je voulais dire. Okay. Il y a une sagesse des questions et une sagesse des réponses. Et la sagesse des questions, c'est de comprendre la question et de comprendre que la question existe. Votre réponse ne vous servira à rien si vous ne savez pas à quelle question elle répond. C'est ce qui arrive en général dans l'assimilation. On avait des sacs de réponses, mais on ne savait plus à quoi ça répondait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est clair pour tout le monde. Et maintenant, quelle est ta question? Qui a demandé d'abord toi ou toi?
De moi,
c'est...
Parle plus fort. Ça fait maintenant un petit peu en contexte, mais je voulais vous demander tout à l'heure par rapport aux apparences.
Oh, par rapport aux...
On ne peut pas juger par rapport aux apparences.
Oui.
Alors, comment est-ce que nous, avec des yeux humains, on peut savoir...
On ne juge pas. C'est pas plus compliqué.
On ne peut pas savoir si...
On ne juge pas. La réponse, tu l'as, mais c'est dur à entendre. Hein. On ne juge pas.
Non, on ne peut c'est clair. Absolument pas savoir si quelqu'un est sadique.
Ah si, les spécialistes peuvent savoir. Hein? Les spécialistes savent. Ça s'appelle des juges. justement, la grande plaie de la société humaine, c'est que tout le monde s'instaure en juge. C'est clair. Alors qu'il n'y a que les juges. Qui jugent?
Et qui sont les juges?
Les juges, au tribunal. Je veux dire pourquoi. Vous avez fait une minute. Vous avez fait un petit peu de psychologie moderne. Okay. Vous savez très bien que les jugements procèdent de préjugés intérieurs, okay, dont il faut se débarrasser pour juger sainement. C'est clair. Alors il faut se méfier de cela. Il y a une phrase du Talmud qui est très forte. Réfléchissez bien à cela. Et puis vous gardez ça pour vous. Okay. Au fond, les hommes accusent ce qu'ils accusent de ce dont eux sont capables. Faites bien attention à ça. Possèle, bémoumo, possèle. Celui qui dit de quelqu'un d'autre, il a un psoul, comment on dit psoul en français, une tâche, okay, c'est qu'il désigne sa propre tâche chez l'autre.
Projet.
Possèle, bémoumo, possèle. Vous avez des gens qui se font, qui vont, comment on dit, des parangons de vertu, je ne sais pas comment on dit ça, ils vont au secours de la vertu, ils accusent. Le tribunal sait très bien qu'ils accusent l'autre de ce dont eux sont capables. Et vous... Non, j'ai ouvert une parenthèse, vous avez compris ça. C'est-à-dire, méfiez-vous, on peut savoir qu'est-ce qu'il y a dans la vie intérieure de quelqu'un en l'écoutant patiemment dénoncer une faute de quelqu'un d'autre. On l'écoute gentiment, comme ça, tiens, de ça, tu es capable, toi. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire, oui, les juges, les vrais, au tribunal. Et, je vais vous dire, vous allez comprendre, je vais prendre l'exemple du médecin. Et, pour être médecin, il faut combien d'années d'études?
16.
Bon, au minimum. Bon, pourquoi ils ont choisi 16? C'est une coïncidence. Alors, pour être médecin, il faut au moins 7 années d'études. Et pour être juge, n'importe qui va juger comme ça. C'est clair? Vous avez compris, Non, pas compris. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est une réponse dure à entendre, on m'a posé une question, j'ai dit, et qu'est-ce qu'on peut faire? On ne juge pas. Dans la tradition juive, il n'y a pas de casier judiciaire. Il n'en existe pas. Vous savez qu'est-ce qu'un casier judiciaire? Quelqu'un a fait une faute, même s'il l'a expié, on va la lui marquer. Et dans le Talmud, c'est interdit. Il a expié, c'est fini. Il redevient ton frère tzadik. Fini, comment
vous?
Absolument pas. Dans la tradition, je ne parle pas des lois israéliennes. Les lois israéliennes sont encore le droit britannique mélangé de droit ottoman et avec je ne sais pas quoi qui sort de la tête des députés. On n'est pas encore au stade que la loi israélienne, c'est la Torah de Moïse. Pas encore. Ça viendra. Mais où, quand, comment, personne ne sait, sauf ceux qui savent.
Alors, revenez. On admet quand même qu'après tant d'années...
La prescription. Oui, la prescription. Okay.
Mais la prescription.
Attends. La prescription, ça veut dire il te faut combien d'années? 30 ans, je ne sais plus.
10 ans.
Bon, dans 10 ans. Et dans la tradition juive, on n'a pas le droit de reprocher à quelqu'un quelque chose qu'il a fait avant le jour de Kippour précédent. Parce qu'en principe, après le jour de Kippour, il est complètement lavé de tout. Alors on ne lui rappelle pas qu'est-ce qu'il a fait avant. C'est clair? Et si quelqu'un continue à avoir des remords de quelque chose qu'il a fait avant le jour de Kippour, des regrets, oui, c'est autre chose. Les regrets sont éternels, mais les remords, quelque chose qu'il a fait avant le jour de Kippour précédent, il est en faute. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il n'a pas bien fait Kippour. S'il avait bien fait Kippour, il n'aurait pas de remords. C'est clair ? C'est fini. Lavé. Sinon, la société ne peut pas fonctionner sur le problème moral.
Chaque année, tout passe.
Oui, à condition que ce soit sincère. Non, mais c'est vrai. Ta question est vraie, ma réponse aussi. Si c'est sincère, effacez. Et il y a, vous êtes trop jeune encore, je vous dirais, à la fin de l'année, il y a trois situations dans la vie, on efface tout et on recommence. En tout cas, le jour de Kippour, si c'est sincère. Sinon, vous rappelez le pasteur, le parapluie, la pluie, là, vous rappelez. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire à la synagogue le jour de Kippour ? Faire semblant. Si c'est pas semblant, eh bien, c'est pardonné, fini. Ça y est ? À condition que ? Qu'on les refasse, bien sûr. À condition, c'est sûr, à condition qu'on n'aille pas au jour de Kippour avec une réticence. Ça veut dire, je vais me faire pardonner tout le passé, l'avenir, on verra. Okay, le vrai repentir, c'est quand c'est la dernière fois.
C'est quoi
votre
situation?
Non, j'ai dit que je ne vous dirais pas avant la fin de l'année. Tu voulais prendre mon inadvertance en inadvertance. Prenez bien cette définition. Le critère d'un repentir authentique, c'est quand c'est la dernière fois. C'est clair, okay. Alors, quand c'est la dernière fois, je me repens, c'est que c'est vrai. Okay. Attends, j'ai pas fini. Et alors, vous allez me dire, et comment je sais que c'est la dernière fois? Alors, je vais vous dire. Quelqu'un qui se repent vraiment, sait quand c'est la dernière fois. Ça trompe personne. Vous avez compris? Bon. Attends, vous avez trop de questions, là. Je voudrais arriver à aller plus vite. Des minutes, dans l'ordre. Et c'était le tour de qui?
Moi, j'ai toujours pas compris. Puisque on juge pas et qu'on ne peut pas savoir que quelqu'un est sadique, pourquoi est-ce que la génération de Noé
savait qu'il était sadique? Bon, disons que il y a des niveaux de vertu que ça crève les yeux, quoi. Que c'est plus qu'une apparence, c'est une évidence. Mais vous alliez dire à Metouchela, tu es sadique. Eh bien, il se dirait de quoi il parle. Souvent, je vous donnais toute proportion gardée. Quand j'étais enfant, c'était déjà la grande période d'assimilation des Juifs en Algérie. Ils se prenaient pour des Français. Et vous savez comment ça leur est arrivé. Les Juifs sont d'origine asiatique. Vous savez qu'Israël est en Asie. Vous savez ça au moins. Alors, puisqu'ils étaient en Afrique, ils sont pris pour des Européens. Et des Asiatiques en Afrique, ils sont pris pour des Européens. Alors, de ça, je vous parlerai un autre jour. Alors, j'allais au lycée, et puis je ne travaillais pas le Shabbat, il y avait quelques familles comme ça encore. Et alors, j'avais des copains juifs, non juifs, ils me disaient ça avec un air de respect, vous n'avez aucune idée. Au moins, toi, tu as la foi. Je les regardais très inquiets, je ne savais pas de quelle maladie ils parlaient, qu'est-ce que j'avais. Et non, je ne plaisante pas. C'est-à-dire, un juif travaille pas. Quelqu'un vient me dire avec un air, tu as la foi. J'avais peur. Ça va? Alors, c'est ça. Vous iriez dire à Metouchelar, tu sais, nous avons appris au cours que tu es tzaddik. Il va chercher dans la Torah, mais il n'y a pas écrit. Il va dire, oui, dans le Midrash. Ah, je suis un tzaddik de Midrash. Ça va? C'est-à-dire, un homme qui est véritablement modeste, il ne comprendra jamais un compliment que vous lui faites. S'il le comprend, c'est qu'il n'est pas modeste. C'est qu'il est hypocrite. Vous avez compris? Réfléchissez bien.
Est-ce qu'on peut vraiment être vraiment modeste?
Oui, si on n'est pas hypocrite. Ça veut dire un tzaddik, tzaddik. Si on est trop modeste, c'est qu'on est orgueilleux. Ça, c'est encore un autre problème. C'est ça que tu voulais dire? Non, mais ça, vous croyez, ça trompe personne. Ne croyez pas qu'on peut jouer avec ça. Ça y est, c'est clair? En tout cas, il y a une phrase de la Kabbalah qui est très, très, très simple dans ce problème. Il y a une personne au monde qu'on ne peut pas tromper, c'est soi-même. Quand quelqu'un a dit « je me suis trompé », c'est pas clair. Hein, vous comprenez? Les gens qui se laissent tromper, c'est des gens qui seraient capables de tromper les autres. Ils font semblant. Et alors, c'est un alibi. On ne se trompe pas, ça n'existe pas, au niveau moral. On sait très bien ce qu'on fait. Je retrouve par là mon problème. La bonne volonté est univoque. Ou c'est une bonne volonté de préférer le bien au mal ou de préférer le mal au bien. Le problème, c'est à quelle table de valeur je me réfère. Mais là, je ne peux pas dire je me suis trompé. Je plaide en disant c'est ma table de valeur. Une minute, je voudrais terminer ça. Alors Dieu nous répondra au jugement, tu seras jugé d'après ta table de valeur. Ça y est, c'est clair. Donc c'est universel. Mais la question rebondit. Parce que c'est très dangereux d'être juré, d'être jugé par une table de valeur qui n'est pas la vraie table de valeur. Pourquoi ? Parce que la nature humaine et la nature humaine doit lui correspondre une vraie table de valeur. Et si je me mets devant un tribunal qui ne correspond pas à ma nature humaine, c'est très dangereux. Je vous donne un exemple. Et là, on va aller dans le fond des problèmes concrets. Imaginons une société qui prétend que sa loi morale, c'est la justice stricte. Ça veut dire que tout acte et toute personne qui ne s'est pas conduit selon la justice stricte est disqualifié. Or, l'homme n'est pas fait uniquement que de la tendance à la justice stricte. Okay ? Vous y êtes ? Alors, le jour du tribunal, on va lui demander quelle est ta loi ? La justice. On va le confronter à la justice. Il est évidemment, a priori, condamné. Pourquoi ? Parce que jamais aucun homme ne pourra se conformer strictement qu'à un seul des critères de la moralité, hypertrophié, mis comme idéal, vous rappelez des définitions, okay, et qui serait que la justice, on lui demandera, et tel jour, à telle heure, tu as fait un acte qui n'est pas la justice stricte. Il ne peut plus plaider. Pourquoi ? Parce que sa loi, c'est la justice stricte, et pas autre chose. C'est clair ? Donc c'est très dangereux d'être devant un faux tribunal, une fausse table de valeur. C'est clair ? C'est-à-dire que le problème rebondit. Mais on a déjà quand même notre première définition, et un premier niveau du tzaddik à l'échelle universelle qui est jugé au niveau de sa volonté. C'est-à-dire, s'il préfère faire son bien comme il le connaît que son mal comme il le connaît, on l'appelle tzaddik. S'il préfère faire son mal que son bien, on l'appelle rachat. Mais c'est à l'échelle universelle. Le cas d'Abraham, de la descendance d'Abraham, est un cas autre qui est appelé à être jugé d'après la loi de vérité absolue, de vérité morale absolue. Voilà la première grande définition de la différence entre Noir et Abraham. Ça va ? Hein ? Alors je répète. Première définition. La définition du tzaddik au niveau de Noir. C'est le jugement sur la bonne volonté. Quelle que soit la table des valeurs, pourvu qu'il y en ait une. Et vous apprendrez ça en travaux pratiques. Quelle est la table des valeurs des Bnei Noir et tous les problèmes qui se greffent là-dessus. Il y a un livre que je vous conseille de lire, quoi, j'ai un certain nombre de réserves à faire sur ce livre, mais si vous l'avez, lisez-le, c'est Israël et l'humanité de Ben Amozeg. Ça vous dit quelque chose ? Élie Ben Amozeg, vous savez ce que c'est ? Dites-moi Saint-Louis, vous savez ? Ah bon, heureusement. Mais Ben Amozeg, vous savez. Et alors, non, j'allais dire Ronsard, je ne sais pas quoi, Dubé. Et son livre s'appelle « Israël et l'humanité ». C'est un des plus grands maîtres juifs du siècle dernier, enfin de la fin du siècle dernier, et qui était le grand rabbin de Livourne, Élie Ben Amozeg. Il est originaire du Maroc, mais il a été grand rabbin à Livourne. Vous n'avez pas jamais entendu parler de ce livre-là ? Toi ? Je ne sais pas, il doit être à la bibliothèque si un des élèves ne l'a pas pris pour le consulter, bien sûr. Regardez avec Eti qu'elle le fasse savoir d'une autre bibliothèque et je vous conseille de le lire. Ça veut dire les réserves, c'est sa position vis-à-vis du christianisme, c'est notre problème. Et alors bon, il faut se remettre dans le contexte, l'Italie de la fin du 19e siècle et, top, c'est-à-dire. Alors voilà la première définition. Alors que le tzaddik selon Abraham va être jugé, lui, d'après la loi de Moïse. C'est clair ? Qu'est-ce qui reste comme question, comme objection là-dessus ? En réalité, on va porter toutes les questions et toutes les objections maintenant en Israël. Pour les goyim, c'est réglé. Okay ? Pour les goyim, c'est réglé. Même en dehors des Bnei Noir, on peut atteindre la définition de tzaddik au niveau de ce jugement sur la bonne volonté. À condition qu'il y a un certain nombre de règles minimum, que la table des valeurs qu'on a choisie, c'est vraiment une table des valeurs de la différence entre le bien et le mal. C'est bien clair. Attends, j'ai pas fini. Alors maintenant, va se poser un problème au niveau des Juifs. Déjà des Hébreux, après les Juifs. Mais pas tous les Juifs ne connaissent la Torah. Bien qu'en principe, la Torah est accessible à tout Juif, pas tous les Juifs ne sont vraiment, comment dire, en situation de pouvoir connaître exactement la différence entre le bien et le mal absolu, la halakha, C'est là. C'est clair ? Quelle est la halakha, la règle à suivre d'après la loi absolue ? Alors donc, la question revient maintenant chez les juifs. Je vous la laisse en suspens. Okay ? La réponse, vous devez, comme d'habitude, est très simple. Vous avez remarqué ça déjà ? Que même si les questions ont l'air d'être compliquées, les réponses sont toujours très simples. Vous avez remarqué ? Donc cherchez-moi une réponse simple, pas compliquée. Mais j'ai posé un problème en exercice. Quelle heure il est ? On n'a pas. Bon. Qui est favorisé ? Les goyim ou Israël ? J'ai pas fini mal. Par rapport à quoi ? C'est que Israël a 613 commandements pour être tzaddik. Et les autres en ont 7. Alors qui est favorisé ? Les goyim, puisqu'ils n'ont que 7. Et Israël, ils en ont 613. Hein ? Israël est favorisé ? Non. Attends, suivez chaque question pour elle-même. Hein. Sinon, vous n'apprendrez rien si vous restez avec votre propre question sans écouter les autres. Okay. Pourquoi ?
Parce que c'est comme si on nous donnait une vie avec le mode d'emploi complet.
Oui, mais ce mode d'emploi est beaucoup plus difficile pour le même but. Parce que pour les blés noirs, en temps normal, ils avaient leur Shulchan Aruch. Il y a une bonne partie du Talmud sur certaines mitzvot qui ne concerne que l'étude des mitzvot des blés noirs. Voilà comment les blés noirs font. Et Israël ne fait pas toujours la même chose sur la même halakha, etc. C'est-à-dire, je veux dire, quand la bonne volonté est authentique, et vous étudierez ça en travaux pratiques, un blé noir a le pressentiment de telle ou telle mitzvah, alors il sait la faire. Vous comprenez ? Non, c'est pas à ce niveau qu'Israël est privilégié. Au contraire, Israël, apparemment, est handicapé. Il lui faut, pour arriver au même portillon, mettez même portillon entre guillemets, parce que c'est pas évident que ce soit le même portillon. C'est pour ça que je mets un point d'interrogation. On va lui demander 1, 2, 3, 4, 5, 613, tandis que l'autre, 1, 2, 3, 4, 5, 7, passé. Vous y êtes ? C'est pas à ce niveau-là. Je vais vous donner une autre indication. Nous avons deux Mishnayot dans la Gemara, que vous connaissez probablement une ou moins sur nous. Kol Israël Yeshlahem Chelek Laolam Haba. Ça veut dire tout Israël a une part au monde à venir. C'est comme ça qu'on traduit habituellement. Et dans la Mishnah, on nous dit, et voilà ceux qui n'ont pas part, parce qu'ils l'ont perdu, parce qu'ils ne méritent plus. Bon. Des quelques cas. Tandis que pour les goyim, on dit, Chassidé ou Mota Olam Yeshlahem Chelek Laolam Haba. Les chassidim des autres nations ont part au monde à venir. On ne nous a pas dit si c'est la même part, ça c'est un autre problème. Okay, une part, c'est une part, chacun un ciel. Mais, alors je repose ma question à ce niveau, en vous répétant les deux Mishnayot. Kol Israël, tout Israël, Yesh Lahem, il y a pour eux, Chelek, une part, la Olam Haba, au monde à venir. Bon, ça c'est pour Israël. Tout Israël a en principe une part au monde à venir. D'où ça vient ? Les patriarches. Retenez bien cela. Okay. Et puis la Mishnah continue, Ve'elou Shein Lahem. Et voilà ceux qui n'ont plus, c'est ceux qui n'ont pas, c'est moi qui traduis ceux qui n'ont plus, ceux qui font comme ça, ceux qui font comme ça, ceux qui font comme ça, des petits cas. La Gemara dispute jusqu'au bout sur la Mishnah pour les sauver tous. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de cas. Pour les Goyim, nous avons une toute autre Mishnah. Chassidé ou Mota Olam, les justes, je traduis juste, je n'aurai pas le droit, les pieux des nations. Chassid, ce n'est pas le tzaddik. Bon. Chassidé ou Mota Olam, Yesh Lahem Chelek Laham. Ça veut dire les pieux des nations, on part au monde à venir. Alors qui est privilégié ?
Les racisés
au monde à Olam, attention. Les pieux des nations, au monde à Olam, c'est-à-dire les nations du monde, on part au monde à venir. Et comment ils le gagnent, ce monde à venir, avec 7 mitzvot ?
Il
n'y
a pas d'exception. Je me disais que avant, ceux qui n'ont pas.
T'as pas bien suivi, mais je vais analyser plus. Ça veut dire, pour Israël, tous, sauf, voilà, les autres, personne, sauf les chassidim. Ah, alors qui est privilégié ?
Les juifs peuvent perdre, mais les nations doivent gagner.
Alors qui est privilégié ? Non, les nations. C'est clair ? C'est elle qui a donné la réponse. À cause du temps. Le temps fait que les nations peuvent l'acquérir, mais le temps fait que ceux d'Israël peuvent le perdre. Donc, la compensation se fait à ce niveau-là. C'est clair ? Ça va ?
Ça veut dire qu'on donne le droit d'y aller ?
Non, je vais te dire. J'ai pas entendu ta question, mais ça fait rien. Je te dis quelque chose de préalable, tu la reposeras après. A priori, tout Israël va au monde à venir. En route, certains se perdent. A priori, les nations n'y vont pas. En route, certains gagnent. Alors, qui est privilégié? L'égoïme. Pourquoi? Parce que chaque quantité de temps leur ajoute des chances supplémentaires. Alors que chaque quantité de temps pour Israël leur ajoute des pièges supplémentaires. C'est clair? Vous n'avez pas remarqué cela? Les hautes, c'est très haut comme réussite. Et puis, avec le temps, ça se dégrade, et vous avez finalement les juifs du consistoire. Ça va? Alors, il y a un phénomène mystérieux de compensation qui se fait. Seulement, il faut bien comprendre que j'ai laissé une question non résolue. Ce n'est pas forcément la même part. Ça, c'est un mystère. Ça veut dire une part au monde à venir. Okay, ça, on étudiera un autre jour. Est-ce qu'il vous reste des questions? Bon, moi, il me reste 5 minutes. Je voudrais au moins vous donner le schéma sur lequel vous réfléchirez pour le cours de demain. Je vous avais demandé de préparer des versets. Chaque fois qu'on voit Lot en compagnie d'Abraham, vous vous rappelez de cela? Bon, alors je vous donne un schéma très rapide. Nous allons voir que dans l'histoire des patriarches, ce qui se cherche, c'est la construction du tzaddik absolu qui va recevoir la loi morale absolue. Okay. Abraham mène à Moïse, ça va prendre 6 générations. Mais déjà, Jacob reçoit le nom d'Israël. Ça veut dire, en principe, Jacob aurait pu être celui qui reçoit la Torah. Rappelez-moi de vous poser la question comme ça la prochaine fois. Pourquoi c'est pas Jacob qui a reçu la Torah? Pourquoi c'est Moïse? Mais déjà, en principe, Jacob reçoit le nom d'Israël. Et donc, ça veut dire qu'à son niveau, l'identité du tzaddik selon Abraham est achevée. C'est clair? Achevée en principe. Vous voyez bien, d'ailleurs, dans le changement de nom. Jacob devient Israël. Il naît Jacob. Mais il reçoit le nom d'Israël. Il y a aussi un changement de nom chez Abraham, mais à un tout autre niveau. Abraham, c'est presque le même nom. Ça aussi, on étudiera. Mais Jacob, Israël. Il n'y a que Jacob qui peut devenir Israël, mais il faut qu'il le devienne. C'est clair? Il n'y a que le peuple juif qui est relié à la Torah, mais il faut qu'il l'acquiert. C'est à peu près le même problème.
Ça mérite.
Par le mérite, oui. Il faut devenir apte. Et alors, et méfiez-vous encore une fois des phrases de la sagesse des nations, comme on dit. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est faux. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, c'est faux. Il y a peu d'élus et il y a peu d'appelés et beaucoup d'élus. Et d'ailleurs, on parlerait du peuple élu, il ne faut jamais employer ces mots-là avant de les élucider. C'est-à-dire le peuple élu. Un de mes amis, vous avez peut-être entendu son nom, André Chouraki, ça vous dit quelque chose?
Oui.
L'écrivain. Qui avait l'habitude de dire, ce pauvre peuple élu, la plupart du temps, il est en ballotage, balloté. Alors, on revient au problème. Et on va voir, à chaque niveau, chacun des grands personnages de l'histoire d'Israël, premièrement les patriarches, sont accompagnés de 2 rivalités. Alors, vous allez commencer à découvrir la structure du récit historique de l'histoire des patriarches. La première, c'est une approximation d'identité qui s'instaure en rivalité. La deuxième, c'est l'antagoniste, celui qui s'oppose. Alors, dans la génération d'Abraham, Abraham est accompagné de 2 personnages. Un qui est l'anti-Abraham, et l'autre qui est une approximation d'Abraham qui va finalement s'ériger en rivalité. Vous comprenez l'idée? Et voilà, ça accompagne toute l'histoire d'Israël, ce schéma. Alors, l'approximation d'identité qui va s'ériger en rivalité s'appelle, dans le récit, j'ai entendu, Lot. Il aurait pu être Abraham, mais il n'est pas arrivé. Alors, il va faire souche, et c'est une souche rivale de la descendance d'Abraham. Mais c'est très approximatif, ça ressemble. Vous remarquerez. Tout ce qui se passe dans l'histoire d'Abraham se passe dans l'histoire de Lot. Mais chez Lot, c'est dans la caricature morale, immorale. L'hospitalité chez Abraham, c'est l'hospitalité. Chez Lot, vous savez ce que c'est, etc. Ça ressemble. Mais un dans le côté de la sainteté, l'autre dans le côté de l'impureté. L'antagoniste qui s'oppose, ça, je ne sais pas si vous pouvez le savoir, c'est Nimrod. Alors, je parlerai déjà demain de Nimrod. Vous n'avez pas entendu parler de Nimrod ? Alors, vous avez Abraham, d'un côté Lot, de l'autre côté Nimrod. Nimrod, c'est l'antagoniste, le rival, c'est Lot. Ça va ?
Mais quel est le rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure ?
On va suivre la construction de l'identité du tzaddik. À chaque étape, il y a des rivalités. Ceci, ça va déjà vous donner le premier grand coup de projecteur sur l'histoire d'Israël au sein de l'humanité. Pourquoi Israël a tous les problèmes qu'il a avec le monde extérieur ? Ça commence déjà avec Abraham. C'est clair ? Au niveau d'Isaac, l'approximation d'identité, c'est qui ? Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. C'est qui ? Non, Ismaël. Et l'antagoniste, celui qui est le anti-Israël, c'est Abimelech. Vous retrouvez tous ces personnages dans le récit. Et au niveau de Jacob, Ésaü, c'est l'approximation d'identité. Et l'antagoniste, qui c'est ? J'ai entendu ? Laban. Mais c'est pas Laban. Ça me rappelle comment on appelle un carréan, je les reporters à la radio ici en français qui disent le Hermon. On va devenir Hermon. Hébron. Et Laban, pas Laban. Donc, alors voilà, vous avez d'un côté, on est bien monté, hein, comme vous voyez. D'un côté, Lot. Et Lot a donné naissance à quelle peuplade ? Moab et Amon. Ismaël, c'est l'empire d'Ismaël. Et Isaac, c'est toute la chrétienté. Tout ça, on verra ça en détail. Alors ici, vous avez Nimrod, on va le diagnostiquer. Qu'est-ce que c'est que ce profil d'homme, Nimrod ? Abimelech, quel est ce profil ? Et Laban, quel est ce profil ? Vous voyez qu'on a du travail sur la planche. Et alors, il y a un personnage qui s'appelle Amalek. Amalek. Et qui apparaît chaque fois que les circonstances de l'histoire mondiale fait que on peut récapituler tous ces six personnages en un seul. Amalek, c'est les six à la fois. Vous y êtes ? Et Amalek apparaît à certains moments de l'histoire. Quand on y arrivera, vous le diagnostiquerez. Vous voyez ? Bon, alors pour le moment, nous allons commencer par ce problème-là. Non, je commencerai par Nimrod d'abord, et ensuite Abraham, Lot. Alors, jusqu'à demain, lisez attentivement le passage, vous voyez Abraham d'un côté, Lot de l'autre. Et je vous ai donné d'ailleurs un rachis avec la fille. Vous vous rappelez ? Je fais la référence à ça. Bon. Ésaü, son frère aîné. Et Laban, c'est l'antagoniste, son beau-père. Vous voyez, c'est les gens les plus proches qui sont les plus dangereux. Okay. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas simple. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Ceux-là, ils ont eu, on les a eu, finalement. On verra quoi. Donc, alors à demain.